Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page sur Radio Clapas, Divergence FM, les deux à Montpellier, sur Radio Grille Ouverte à Alès et sur Vallée FM à Marne-la-Vallée. Marie-Pierre Soriano, toujours aux commandes de votre magazine littéraire qui aime la musique. Moi, tous les 15 jours, je vous donne rendez-vous pour une demi-heure. Moi, j'ai envie de vous refiler tous mes tuyaux de lecture, que ce soit roman, BD ou nouvelle. Quand j'aime, j'ai envie avec vous de partager et pour y arriver en grand, je chronique les bouquins, bien sûr, j'interviewe les auteurs dès que l'occasion m'est offerte. Et je vous propose aussi un fil d'Ariane musical tout au long de l'émission, histoire de vous restituer sans blabla les émotions que j'aurais vécues pendant les lectures. Et aujourd'hui dans Rock and Page, j'ai choisi de vous causer tout près dans les oreilles d'une bande dessinée. Une bande dessinée tout en finesse, une bande dessinée qui s'appliquerait à dire des âmes et à dessiner des décors dans lesquels naviguent ces âmes. Il s'agit du tome 3, la suite et la fin des aventures de Frances, par Johanna Hellgren, paru dans son intégralité, c'est-à-dire un triptyque, aux excellentes éditions Cambourakis. Et pour vous aider à y entrer avec moi dans l'univers de ce tome 3 de Frances, moi je vous dirais bien d'écouter ça. Sitting, staring, watching all you leave behind is there is nothing which has so much more to give. I lost you. You're putting down the memory. As if nothing has something more to give. I lost you. Who beats the clock for us? Voilà, c'était un extrait du dernier album de la jeune Soap and Skin pour vous dire la fragilité, la force aussi, les tons, la texture du trait de Frances, tome 3, aujourd'hui à l'honneur dans Rock and Page. Frances est l'œuvre de Johanna Hellgren, et Johanna Hellgren est une jeune femme née en 80 en Suède, à Stockholm, et depuis, je crois, elle vit à Paris. À Paris, elle acquiert la langue française, ce qui lui a permis, noter le tour de force, d'écrire cette bande dessinée en français. Les trois tomes de Frances, édités tous les trois chez Cambourakis. Frances est en fait une saga familiale très contextualisée dans son temps, ce qui veut dire qu'en parallèle et de façon tout aussi importante, nous suivons les destins d'Ada et Auguste, frères et sœurs, et de Frances qui est la fille d'Auguste qu'Ada récupérera à la mort d'Auguste, mais aussi les mouvements d'une société qu'on devine scandinave par son manque de lumière et datée, disons, des années 30 sans que cela nous soit précisé. Le lieu nous est confirmé, nous sommes en Suède. La bourgeoisie suédoise est sans pensée moralisatrice du début du XXe siècle, le poids d'une famille de surcroît quand elle est bourgeoise et le tour de force que représente le fait d'être né différent dans un pareil contexte, voilà de quoi nous cause le tome 1 de Frances. On y voyait Ada, fille de cette famille bourgeoise clairement, homosexuelle, et vivant sa différence selon les lois de discrétion dictées par son époque. Et malgré ces lois, tous ces non-dits et tous ces tabous, on y rencontrait une Ada forte, farouchement libre et assumant pleinement qui elle est. Un peu comme ça d'ailleurs. Maybe there's a better way. Maybe there's a better way. Here comes another day. Here comes another day. I see you. From my window up above, oh, I can see you from up above. I watch you every day walk down St. Mark's Place. I watch
watch you every day walking up and down St. Mark's Place. Maybe there's a better way. Maybe there's a better way. It's a brand new day. Maybe there's a better way. Gotta be a better way. And I watch you, watch you. Another day. I watch you every day walk down St. Mark's Place. I watch you every day walking down St. Mark's Place. Oh, baby, can't you see me from up above? Maybe just a shadow now, but it's not how I always was. Alone in my room every day, just to watch it's you walk away. Shame. Sit alone, pray and pray, staring out the window just to watch you walk away. You're walking down St. Mark's Place. I'm waiting for you on St. Mark's Place. There's a better place, there's a better. It's another day, it's a brighter day, it's another day. We'll last another day for me to waste away. And I pray, and I pray, and I pray as you walk down St. Mark's Place. And I pray, and I pray as you walk down St. Mark's Place. St. Mark's Place.
Lydia Lunch, tout carrément, pour vous présenter Ada, le personnage féminin de Jonah Hellgren dans sa BD en triptyque Frances. Lydia Lunch, pour sa dimension affranchie, libre, tout comme les Ada, même dans les années 1930, coincée dans une famille de haute bourgeoisie suédoise. Dans le tome 1, un peu comme chez Ibsen, ou encore comme sur un Lieder de Schubert, Hellgren plantait le trio frère-sœur Auguste et Ada et la fille d'Auguste, Frances. Elle les plantait donc dans leur embourgeoisement hérité dans cette Suède du début du siècle dernier. Elle y allait de son trait si délicat, tout en gris, de sa maturité indiscutable et de son empathie totale, sans toutefois se livrer à la moindre leçon pompeuse de morale que ce soit. C'est ainsi, nous disait-elle, à grand renfort de raffinement et de délicatesse. Et puis, dans le second tome, elle lâchait le fil du temps, le fil chronologique, pour nous faire entrer dans l'intimité d'Auguste et nous conduire exactement là où elle l'avait envisagé, à savoir dans tout ce qui a fait qu'Ada est Ada, une femme, interdite officiellement dans sa différence, mais affranchie et capable de porter beaucoup, beaucoup de chapes de plomb et de responsabilités, malgré une apparente fragilité. Et là, pour tout vous dire, on se croirait chez Sofia Coppola, un peu comme ça.
Everyone dated the demise of our neighborhood from the suicides of the Lisbon girls. People saw their clairvoyance in the wiped out elms and harsh sunlight. Some thought the tortures tearing the Lisbon girls pointed to a simple refusal to accept the world as it was handed down to them, so full of flaws. But the only thing we are certain of after all these years is the insufficiency of explanations.
Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl.
From that time on, the Lisbon house began to change. Almost every day, and even when she wasn't keeping an eye on Cecilia, Lux would suntan on her towel, wearing a swimsuit that caused the knife sharpener to give her a 15-minute demonstration for free. The only reliable boy who got to know Lux was Trip Fontaine, who only 18 months before the suicides had emerged from baby fat, to the delight of girls and mothers alike. It would be so drastic. The girls were pulled out of school and Mrs. Lisbon shut the house for maximum security isolation. The girls' only contact with the outside world was through the catalogs they ordered that started to fill the Lisbon's mailbox with pictures of high-end fashions and brochures for exotic vacations. Unable to go anywhere, the girls traveled in their imaginations to gold-tipped Siamese temples, or past an old man with a leaf broom tidying a moss-covered speck of Japan. And Cecilia hadn't died. She was a bride in Calcutta. Collecting everything we could of theirs, we couldn't get the Lisbon girls out of our minds. But they were slipping away. The colors of their eyes were fading, along with exact locations of moles and dimples. From five, they had become four, and they were all, the living and the dead, becoming shadows. We would have lost them completely if the girls hadn't contacted us. Lux was the last to go, fleeing from the house we'd forgotten to stop in the garage. After the suicide free-for-all, Mr. and Mrs. Lisbon gave up any attempt to lead a normal life. They had Mr. Headley pack up the house, selling what furniture he could in a garage sale. Everyone went just to look. Our parents did not buy used furniture, and they certainly didn't buy furniture tainted by death. We, of course, took the family photos that were put out with the trash. Mr. Lisbon put the house on the market, and it was sold to a young couple from Boston. It didn't matter in the end how old they had been, or that they were girls, but only that we had loved them, and that they hadn't heard us calling. Still do not hear us, calling them out of those rooms where they went to be alone for all time. Alone in suicide, which is deeper than death, and where we will never find the pieces to put them back together.
R est la bande originale de Virgin Suicides pour vous dire toute la magie de la BD qui s'intitule Frances, parue en 3 tomes chez Cambourakis et signée par Johanna Elgren. Enfin, je dirais que le tome 3 que je viens de refermer est un focus sur Auguste et Frances, le père et la fille, ce père paumé, fragile et errant avec sa petite fille, ce père allant de boulot en boulot pour la survie de sa fille, ce père au charme fou qui laisse dans sa fuite sa sœur Ada aux prises avec le vieillissement de leur père et mère. Ada aux prises avec cette charge familiale, Ada en proie à un chagrin d'amour, mais Mais qui tue et pour cause. Lisez donc ce triptyque. Je suis bien décidée à ne pas tout vous dévoiler de sa force. Francis est un sommet de finesse, de raffinement et de déclarations ouvertes sur la femme. Entre autres choses, puisque, je vous le répète, il s'agit aussi d'un magnifique témoignage sur une époque, une classe sociale, un pays. Les trois tomes sont dessinés au crayon gris et on s'approche ainsi de la non-lumière scandinave. Les objets sont importants, leur perspective aussi. Joanna Edgren nous offre un vrai et magnifique travail, novateur, plein de risques pris, savamment construit. Je ne peux que vous recommander la lecture de Francis. Et comme nous ne sommes que des petites choses très fortes, que nous passons nos vies à voir midi à nos portes, moi, j'ai été particulièrement percutée par le personnage d'Ada. Et comme l'actualité nous offre aussi la possibilité de causer du 8 mars, soit la journée de la femme, permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de vous diffuser un très court reportage. Un très court reportage réalisé par Aline, la grande Aline de Radio Grille Ouverte d'Alès, la même de votre radio Cévenol préférée, court, percutant, efficace, sensible et très fin. Je n'aurais jamais eu le talent de la coller ainsi, cette gifle-là, mais comme elle l'a fait et avec une classe folle en plus, écoutons-la.
Les journées internationales sont des journées dédiées à un thème particulier. Elles peuvent être des journées internationales ou journées mondiales décrétées par l'ONU pour attirer l'attention sur des enjeux importants ou promues par des institutions, des ONG ou des associations et largement suivies par le monde, dixit ma source internet. Toujours selon ma source, que je n'ai pas le droit de citer, sinon c'est de la pub et on n'en fait pas, il n'existe pas moins de 190 journées internationales ou mondiales dans l'année. Les plus connues, bien sûr, comme la Journée internationale de lutte des femmes le 8 mars, notre sujet du jour, Journée contre le sida le 1er décembre, Journée contre les violences faites aux femmes, la Journée des droits de l'enfant, Journée du refus de la misère, sans oublier les Journées du patrimoine ou encore la Journée sans tabac. Et puis j'ai découvert des journées internationales ou mondiales plus légères, comme la journée mondiale des câlins, ou encore la journée mondiale sans téléphone portable, journée du rire, celle du sommeil. Il y a même une date que j'ai cru fausse. Oui, sceptique, j'ai appris qu'il existait la journée mondiale des toilettes, le 19 novembre, célébrée le même jour que la journée internationale de l'homme. Mais revenons à nous, les femmes. Tous les ans, on doit rappeler que le 8 mars n'est pas la journée de la femme, mais la journée internationale de lutte des femmes. Ce pluriel est essentiel. Merci de ne pas l'oublier, car les femmes sont multiples et leur lutte aussi. Mais dans un seul but, avoir les mêmes droits, le refus des oppressions, des violences, des inégalités, des préjugés. Pour la petite histoire, sachez que cette journée est née à Copenhague le 8 mars 1910, impulsée par une confédération internationale de femmes socialistes en vue de servir à la propagande du vote des femmes. Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne et elles l'obtiennent en novembre 1918. Le 8 mars 1948, en France, des milliers de femmes défilent à la gloire de leur droit de vote exercé pour la première fois en 1945. Les hommes votaient depuis un siècle déjà. La Suisse accorde le droit de vote aux femmes en 1971. Les suffragettes avaient commencé à bosser dessus en 1909. Les Nations Unies ont commencé à observer la Journée internationale de la femme le 8 mars 1975. En France, c'est en 1982 que le gouvernement socialiste instaure le caractère officiel de la célébration de la Journée internationale de lutte des femmes le 8 mars. Malheureusement, ici, cette journée a perdu son caractère protestataire. Même si, à l'heure actuelle, la condition des femmes continue d'être peu enviable. Les inégalités entre hommes et femmes sont un phénomène universel, de même que les violations des droits fondamentaux de ces dernières. Et n'oublions pas qu'une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups d'un compagnon tumultueux. Alors voyez-vous, même si l'origine de cette journée internationale des luttes des femmes a 101 ans, ce serait bien de ne pas dévoyer son sens premier, car tant que des inégalités, oppressions, violences existeront, on aura besoin de journées comme celle-là et plein de combats au quotidien. Bon, voilà. Je voulais vous la faire drôle, mais lorsque j'ai fait mes recherches pour ce papier, je n'ai pas eu envie de rire. D'autant que lorsque j'ai pris ma voiture ce matin pour venir jusqu'au studio, j'ignore encore quelle étourderie de conduite j'ai pu commettre, mais un monsieur au volant de son automobile m'a hurlé « Putain, encore une gonzesse au volant !» dans ce langage alésien aussi fleuri que notre belle cité Sévenol. L'espace de quelques secondes, mais pas plus, j'ai eu envie d'apaiser le furieux. « Mais monsieur, calmez-vous, ne déversez pas votre hargne sur les filles au volant en ce 8 mars, journée internationale de lutte des femmes, parce que les femmes sont multiples et leur lutte aussi. Non, cher monsieur, rassurez-vous. Le 19 novembre, c'est la journée internationale de l'homme. Parce que l'homme est unique, non ?
Voilà pour mon message spécial Journée des femmes. C'était Aline de Radio Grille Ouverte. Pour ma plus grande fierté, les enfants, cette dame-là, la radio dans ma vie, c'est elle. Excusez du peu. Et sinon, je vous rappelle que je viens de vous causer de Francis, paru en triptyque chez Cambourakis et signé par Johanna Algren. Je vous invite 1000 fois à vous procurer cette perle, vraiment. Johanna Algren possède un talent difficilement descriptible et Francis vous emmènera dans la Suède des années 1930, au cœur d'une famille bourgeoise, et vous présentera 3 personnages magnifiques de différence. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Tom de Clapas à la technique. Retrouvez toutes les anciennes émissions sur le blog de celle-ci au http://thisisrock'n'page.blogspot.com. Prenez bien soin de vous, restez critiques et vigilants, payez-vous le grand luxe d'aller voir, sentir et écouter. Je vous laisse en compagnie de Camille avec She Was, un extrait de son tout dernier album, pour vous dire une dernière fois et sans blabla ce que j'ai ressenti à la lecture de Francis, la bande dessinée de Johanna Algren.
was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose. And as she stretched, the sun rose. Go, 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 go away, go away, go away, go, 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 go away, go away. When she was young, she was a cow, and all day long she looked the stars. She told me, woman, to survive must be faithful to that child. For the wonders of the world, she was a lady with a bow. She must have had so many lives. Was it the first? Was it the last? Go, 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 go. So patient, she would wait until I sang by the lane the sweetest tunes to ease her pain. When she was old, she was an owl. I saw her swaying in the sky the day she died inside my arms. I realized she was a cat.